On va commencer doucement. Merci d'être aussi nombreux pour cette table ronde scientifique, relativement technique. J'ai la chance d'animer cette table ronde sur la mesure du temps avec quatre scientifiques de quatre spécialités très différentes. Tout de suite à ma gauche, il y a Sébastien Steyer, qui est un paléontologue, donc quelqu'un qui n'a pas peur de salir les mains, de gratter la terre pour... de creuser des trous pour trouver des fossiles, des traces de ce qui a pu se passer à des époques très reculées et qui nous dira comment on peut dater justement, comment on peut estimer la période de ces fouilles. À côté de lui, j'avoue que j'ai appris un mot très récemment, Lucille Beck, qui est archéomètre, donc qui nous expliquera ce qu'est l'archéométrie. À ses côtés... Roland Lehoucq, qui est notre président à tous, le président des Utopiales, et qui par ailleurs dans le civil est astrophysicien, et Raphaël Granier-Cassagnac, qui lui est physicien des particules. Donc on a quatre échelles très 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 différentes, deux chercheurs au CNRS, deux chercheurs au CEA. Je suis tenté de commencer par un tour de table un peu rapide puisqu'on a des échelles aussi différentes. Peut-être commencer par Raphaël. Est-ce que c'est pour toi qui travailles avec les particules de haute énergie, avec des objets microscopiques au dernier degré, avec la théorie quantique qui est fondamentalement une théorie de la mesure, dans ton domaine, est-ce que le temps est une grandeur comme les autres? Est-ce que c'est une observable? Est-ce que c'est un objet qu'on peut manipuler comme n'importe quelle grandeur? Et quel sens ça peut avoir dans un grand accélérateur comme le CERN, quand on fait de la physique des particules, de mesurer le temps?
Oui, le temps compte énormément pour nous. Je ne sais pas si on doit s'aventurer là-dedans, mais nous, on vit dans un monde qui est clairement relativiste, de relativité restreinte. Donc déjà, le temps ne passe pas pour tout le monde de la même façon. C'est-à-dire que bon, pour nous, pour vous, le temps il passe de la même façon, ne vous inquiétez pas. Mais pour les particules élémentaires, il ne passe pas de la même façon. C'est-à-dire que quand une particule élémentaire vit une durée de temps qui peut être même macroscopique, hein, un neutron, ça vit 15 minutes, donc c'est une échelle de temps dont nous, on a l'habitude. Et bien, s'il va vite, on le voit vivre beaucoup plus longtemps, alors que pour lui, il vit le même temps que... Enfin, il ne sait pas qu'il va vite et sa durée de vie, elle reste la même, quelle que soit sa vitesse pour lui. Donc ça, c'est un point qui est très important. Et puis, on y reviendra peut-être si tu veux bien, mais... l'autre chose qui est aussi très liée, c'est que pour nous, la vitesse de la lumière compte énormément. Et pas forcément pour le sujet de nos recherches, mais aussi pour le câblage de nos appareils. C'est-à-dire qu'on doit synchroniser des gros appareils électroniques. Et le temps que met la lumière, donc les signaux qui sont à l'intérieur des câbles électroniques, à parcourir des distances qui sont grandes comme ça, par exemple, ça compte énormément. Quand j'ai démarré dans ce métier-là, je me souviens toujours, on a des fils sur lesquels qu'on étiquette en fonction pas de leur longueur, mais du temps que met à la vitesse de la lumière les signaux à passer là-dedans. Donc ça, c'est une échelle de temps, la nanoseconde, dirons-nous, qui est très importante pour nous. Et puis peut-être, je ne sais pas si tu veux qu'on... Ouais, on en reparlera peut-être après. Peut-être je pourrais vous montrer que ça a une importance en fait, pour beaucoup de gens, y compris des gens qui font de la finance et des choses comme ça.
Donc ce que tu mesures fondamentalement, ce sont des durées de vie, des durées de transit dans un câble, dans une fibre optique.
Est-ce qu'on mesure vraiment? Oui, il nous arrive de mesurer vraiment des durées de vie, qu'on mesure plutôt par la distance que parcourent les particules, qui vont tout essentiellement à la vitesse de la lumière. Donc on a une correspondance très très forte entre la distance et le temps, ce qui doit être moins vrai pour vous, je pense.
On peut passer de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Toi, tu, comme astrophysicien, j'imagine que tu travailles au moins autant avec l'espace-temps qu'avec le temps. Qu'est-ce que tu mesures? D'abord, est-ce qu'on mesure le temps en astrophysique? Est-ce que ça a un sens?
En astrophysique, les distances qui nous séparent des objets qui sont étudiés sont assez importantes. Alors, dans le système solaire, c'est des centaines de milliers de kilomètres, 380 000 km pour la Lune, mais le Soleil, 150 millions de kilomètres. L'étoile la plus proche, pratiquement 40 000 milliards de kilomètres. Ça devient tout de suite beaucoup plus long. On les exprime du coup plus en kilomètres, dès qu'on va un peu loin, ça s'exprime plus en kilomètres, c'est tout exprimé en distance lumière, la durée que la lumière qui nous en vient a mis pour nous parvenir. Et donc on parle rarement du soleil comme étant distant de 500 secondes lumière, mais c'est sa distance, la lumière du soleil met 500 secondes d'après pour nous parvenir, sa distance est 150 millions de kilomètres, 500 secondes à 300 000 kilomètres par seconde. Mais dès qu'on parle des étoiles les plus proches, Alpha du Centaure, 4 années-lumière, un peu plus, 4,4 années-lumière. Et à partir de là, on commence à parler en distance-lumière. pour dire la durée que la lumière qui nous vient des objets a mis pour nous parvenir. Et on se rend compte rapidement que les objets étudiés par l'astrophysique sont situés à des dizaines, centaines, milliers d'années-lumière quand ils sont dans notre galaxie. Notre galaxie ayant elle-même une taille estimée à 100 000 années-lumière, la lumière qu'il a parcourue d'un bout à l'autre mettrait à peu près 100 000 ans pour la parcourir. Puis les galaxies extérieures, dans la durée de transit de la lumière qui nous en parvient, ça se chiffre en millions, dizaines de millions, en milliards d'années-lumière. Et en fait, on devrait plutôt dire milliards d'années-lumière ensuite, parce que à des échelles de grandes échelles de taille, l'univers n'est pas statique, il est en expansion. Et on parle vraiment en temps de regard, durée de regard en arrière, le temps que la lumière a mis pour nous parvenir, ce qui n'est pas exactement la même chose que des années-lumière. C'est-à-dire que si la lumière a mis un an pour me parvenir, la distance de l'étoile ou de la source est une année-lumière. Mais quand l'objet devient vraiment lointain, il faut tenir compte de l'expansion. Le temps que la lumière nous parvienne, l'univers s'est dilaté, et la distance de l'objet où il est au moment où je reçois la lumière n'est pas la distance où il était quand la lumière a été émise. Et donc on parle cette fois-ci simplement de durée ou de temps, de durée de regard en arrière, et on dit cette galaxie, la lumière qui nous en parvient a mis 10 milliards d'années. Ce qui ne veut pas dire qu'il est à 10 milliards d'années-lumière de distance, parce qu'entre-temps, il y a eu l'expansion de l'univers, la durée de propagation a été si longue que l'univers s'est dilaté suffisamment pendant cette propagation. Et donc, on est tout de suite obligé, vu les distances qui nous séparent de ces objets lointains, de parler en temps plutôt qu'en distance. On s'est souvent traduit en distance et parfois de façon fautive, mais on parle en durée de propagation. Et ces durées sont considérables. Elles se chiffrent vraiment en tout de suite le million d'années de propagation dès que c'est une galaxie extérieure à la nôtre, et les milliards d'années arrivent très rapidement dès qu'on parle de cosmologie. Quand on parle après d'objets qui peuplent l'univers, si on parle d'étoiles, de planètes, les durées de vie des objets qui peuplent l'univers, les étoiles comme le Soleil, leur durée de vie est estimée à 10 milliards d'années, c'est toute encore une énorme échelle de temps. Les étoiles plus massives que le Soleil, mettons 10 fois plus massives que le Soleil, vont durer à peu près 1000 fois moins longtemps, donc ce sera plutôt 10 millions d'années, ça reste des grandes échelles de temps, mais beaucoup plus courtes pour une étoile. Pour quant aux planètes, la Terre, l'âge estimé de la Terre, 4,56 milliards d'années. Alors ça, c'est quelque chose qui est fondé sur l'observation de roches, de cailloux qu'on ramasse sur Terre, mais qui ne sont pas des cailloux terrestres, qui sont des météorites qui sont tombées à la surface de la Terre et qui nous donnent une idée de l'âge de la Terre et du système solaire en fait en général, de 4,56 milliards d'années. Donc les échelles de temps qu'on croise couramment en astrophysique sont extrêmement grandes. En même temps, ce qui est assez curieux, c'est qu'il y a des phénomènes astrophysiques, par exemple la coalescence de deux trous noirs, qu'on a détecté maintenant récemment directement par l'émission d'ondes gravitationnelles, ou la détection de deux étoiles à neutrons, la dernière détection d'ondes gravitationnelles résultait de la détection de deux étoiles à neutrons. L'échelle de temps de la coalescence, c'est un dixième de seconde pour les trous noirs, quelques dizaines de secondes pour deux étoiles à neutrons. Donc cohabitent dans l'univers des phénomènes extraordinairement brefs, dont il faut bien décrire les étapes ultimes, comme l'explosion d'une étoile en supernova, la coalescence du cœur, l'effondrement du cœur, c'est le dixième de seconde. La coalescence de deux trous noirs, c'est le dixième de seconde, la seconde. La coalescence de deux étoiles à neutrons, 100 secondes, disons, et des échelles de temps considérables. Donc la grande difficulté de l'astrophysique, c'est d'être capable de décrire, dans une vision globale, à la fois des échelles de temps très courtes et des échelles de temps très longues. Heureusement, ce n'est pas la même échelle d'espace. L'étoile à neutrons, le trou noir, l'étoile, c'est quelque chose d'assez gros, évidemment, à notre échelle humaine, mais qui reste bien plus petit que l'échelle de l'univers, les échelles cosmologiques qui sont mesurées par la durée de propagation de la lumière. Donc on a cette, en même temps, il va falloir être capable de décrire des choses très brèves et très longues.
Il semble que cette gymnastique intellectuelle un peu vertigineuse entre les échelles, entre l'infiniment grand et l'infiniment petit, sera sans doute le fil rouge de cette table ronde. Il semble quand même que tu m'as fourni une transition parfaite avec Lucide en parlant de datation et de météorites. Ça, j'imagine que c'est plus proche de ton métier.
Oui, moi, c'est, donc des échelles de temps un peu plus qui ressemblent un peu plus à la vie courante, et puis des phénomènes qui sont plutôt sur notre Terre. Donc la datation pour l'archéologie, mais avec des moyens de physique et avec finalement un peu de physique des particules, puisqu'on va utiliser des appareils de spectrométrie de masse par accélérateur pour mesurer ces temps de l'archéologie. Donc les temps de l'archéologie qui vont nous intéresser, c'est du présent jusqu'à 50 000 ans, par exemple, pour les grottes ornées, mais ça peut être plus ancien pour les premiers hominidés, donc quelques millions d'années. Et on va utiliser, suivant ces échelles de temps que l'on veut observer, comme chronomètre, un élément, un noyau radioactif qui va se désintégrer suivant une période radioactive, donc typiquement pour le carbone 14 de 5730 ans. Et si, par un moyen de physique, on peut compter un nombre de carbone 14 restant dans un objet, par exemple un os qui aura été enfoui pendant plus de 10 000 ans, pendant environ 10 000 ans, va perdre un quart, enfin il va rester dans cet os un quart de ces carbone 14 qu'il aurait eu, qu'il avait eu du temps de son vivant. Donc là, puisqu'on est capable de mesurer ce nombre de carbone 14 qui va rester dans un échantillon, ben, on va être capable de dater la mort de l'homme ou de l'animal qui portait cet os. Donc pour nous, c'est plutôt des âges ni trop petits ni très grands, mais pour lesquels on utilise des appareils de physique qui vont mesurer quelques 10-12 atomes de carbone 14, puisque c'est un atome radioactif en très très faible quantité. Donc voilà, quand même, on manipule des très petites quantités, mais pour mesurer des durées de temps qui ressemblent un peu à notre vie de tous les jours. On va pouvoir mesurer des choses à l'échelle annuelle avec d'autres méthodes beaucoup plus simples qui sont tout simplement de compter les cernes des arbres. Les arbres font 2 cernes par an, un d'hiver, un d'été, et 2 cernes donc, correspondent à une année. Et si on connaît, quand on a abattu l'arbre, on peut savoir quel âge il a. Et si on connaît des poutres anciennes, on va pouvoir savoir à quel âge elles ont été abattues. Donc là, c'est très très précis, mais c'est relatif. Il faut avoir un point zéro qui est aujourd'hui et puis remonter dans le temps. Mais c'est précis à l'année près. Alors que pour les radioisotopes, donc j'ai parlé du carbone 14, mais aussi il y a le potassium 40 qui permet de dater plusieurs centaines de milliers d'années. On va avoir des dates très justes, mais parfois avec des incertitudes un peu grandes. Enfin, c'est ce que se plaignent les archéologues, c'est qu'on n'est jamais assez précis, mais au moins on est juste en termes de dates. Donc voilà un peu le panel de durée et de temps écoulé. En fait, ce qu'on mesure, c'est le temps écoulé entre un événement passé et aujourd'hui.
Sébastien, ce sont des techniques comparables que tu peux utiliser ?
Alors, comparable, oui et non, parce que malheureusement, avec les fossiles, il n'y a plus de carbone 14, donc on galère un peu à mesurer le temps, ou plutôt, on prend pas mal de temps pour mesurer le temps, dans le sens où on utilise deux principales méthodes. En fait, il y a la méthode relative, c'est-à-dire, en gros, une espèce fossile va vous indiquer, grosso modo, une époque. Alors, c'est ce qu'on appelle, en fait, la biostratigraphie. Et on utilise surtout des espèces qui sont très dispersées dans l'espace à un temps très court, un delta T très court. C'est ce qu'on appelle un marqueur stratigraphique. Typiquement, l'humain pourrait être dans le futur une très bonne espèce stratigraphique.
On va s'empresser de disparaître rapidement pour vous fournir un marqueur, oui.
Voilà, bon, non, mais cynisme mis à part, ça marche plus ou moins bien. C'est-à-dire que quand on trouve dans une couche sédimentaire donnée, une espèce fossile, on se dit, ah, cette espèce-là est d'environ 111 millions d'années. Bon, c'est à peu près, on n'est pas à quelques milliers d'années près. Et on essaie de croiser, en fait, ce résultat en datation relative avec les datations absolues. Alors là, on fait appel aux collègues plutôt géologues, géochronologues, en fait, qui vont dater d'autres isotopes, donc d'autres variants massiques d'éléments atomiques qui sont présents dans des roches, cette fois-ci volcaniques. Donc il s'agit du plomb, du thorium, de l'uranium qui sont contenus naturellement dans les roches et qui se désintègrent naturellement aussi au cours du temps. Hein, on connaît la période de demi-vie, enfin la période de désintégration. On sait à peu près combien il y avait d'isotopes au début, et donc on compte en fait le nombre d'isotopes restants et on en déduit une datation, cette fois-ci absolue. Alors, cette méthode-là, quand on est paléontologue, elle n'est pas tout le temps disponible dans le sens où, idéalement, il faudrait que notre fossile, qui est contenu par définition dans une couche sédimentaire, soit encadré, soit dans une sorte de sandwich, si vous voulez, avec une couche de lave juste en dessous et une couche de lave juste au-dessus. Et puis, on peut espérer avoir un delta, c'est-à-dire une variation qui donne même un milieu de dépôt des sédiments de l'époque, en plus de l'âge absolu, cette fois-ci, du fossile. Alors, c'est quand même très rare, mais c'est le cas dans le domaine continental notamment. Et donc, en essayant de croiser comme ça les méthodes, on arrive grosso modo à donner des âges à nos fossiles à quelques centaines de milliers d'années près quand même. Mais ce sont des deltas qui nous paraissent, nous, énormes, mais sur des millions d'années, voire des centaines de millions d'années. Donc, on est quand même dans des marges assez intéressantes. De toute façon, ça rejoint un petit peu les remarques de tes collègues archéologues. Si on veut publier des résultats en géochronologie, il faut avoir un delta inférieur à un million d'années. Donc, on essaie de forcer un peu les machines et forcer l'analyse des zircons. Des minerais, en fait, naturellement, encore une fois, radioactifs, qui sont contenus dans ces fameuses laves que l'on chasse, en plus de chasser des fossiles.
Une question, ça veut dire, quand on trouve un fossile, on essaie de trouver aussi de quoi le dater. C'est-à-dire, il ne peut pas se dater tout seul, il faut gratter autour et prier les dieux qu'il y ait un bout qui traîne, genre une montre qui traîne, qui s'est arrêtée, voilà. Enfin, une montre...
Oui. Quand ce n'est pas un fossile stratigraphique, on espère avoir des laves quelque part dans le même bassin sédimentaire pour essayer d'avoir une idée de l'âge absolu.
Moi, je note qu'un point commun de vos discours, avec toutes leurs différences, c'est que on a parlé de durée, d'évaluation de durée de vie, de durée de désintégration, de temps de désintégration, de temps de propagation, de durée de propagation d'un signal ou de la lumière. Aucun d'entre vous n'a parlé véritablement de mesure du temps. Est-ce que ça veut dire, au sens du temps comme grandeur en tant que tel, est-ce que ça veut dire que c'est quelque chose qui est complètement inaccessible aussi bien aux techniques du physicien qu'aux techniques des archéologues et des paléontologues? Est-ce que la question même de la mesure du temps est une question qui est plus métaphysique que scientifique? Ou est-ce que vous avez connaissance les uns ou les autres de...
Oui, c'est un peu l'idée. C'est-à-dire que la mesure du temps, le titre était choisi un peu de façon provocante, en tout cas pour des physiciens. C'est qu'effectivement, comme l'a dit à peu près tout le monde, on mesure en fait l'intervalle de temps, la durée qui sépare un événement d'un autre événement. Donc l'apparition d'une particule et sa disparition, sa transformation, sa désintégration. Un noyau, un être qui est enfoui, qui était vivant, qui est mort, qui est enfoui dans une couche, et puis il y a eu des couches au-dessus, et l'épaisseur vous dit, c'était il y a longtemps ou c'est il n'y a pas longtemps déjà, et puis éventuellement avec une précision un peu meilleure. Et puis pareil, pour l'astrophysique, on mesure, entre l'émission du signal et la réception du signal, la lumière qu'on capte, on peut mesurer, déterminer la durée qui a prévalu pour la propagation de la lumière venant de la source jusqu'à nous. Alors on ne mesure pas la durée directement, il y a des subtilités, on peut en parler, mais toujours ça sépare, on mesure l'intervalle de temps, la durée, en fait on devrait dire toujours la durée qui sépare deux événements, l'émission de la réception, l'apparition de la particule, sa disparition, pareil pour Lucille j'imagine, et pour Jean-Sébastien, l'animal mort et le moment où on le trouve après toute la sédimentation, toute l'évolution géologique qui a recouvert les restes de l'animal disparu. Donc c'est toujours, j'ai l'impression, une durée qu'on mesure.
Ouais. En fait, je pense que le seul qui a vraiment, dans le débat, parlé d'une mesure de temps, c'est toi, en fait. Parce que quand dans la mesure des ondes gravitationnelles, on mesure donc ce que tu disais, le collapse de deux trous noirs ou le collapse de deux étoiles à neutrons, il se trouve que ça se passe dans des échelles de temps qui sont mesurables. Donc on reçoit un signal et la structure temporelle de ce signal, donc c'est vraiment, on le reçoit entre 10h12 et 10h14, c'est important. Donc c'est le seul des exemples qu'on a donné, je pense, où on a vraiment une mesure de temps directe avec nos outils à nous.
Pour les ondes gravitationnelles, il faut absolument avoir la variation, disons, dans le temps, la succession d'événements. Les deux trous noirs, par exemple, tournent l'un autour de l'autre. Ils émettent, en tournant l'un autour de l'autre, un train d'ondes gravitationnelles très intense. Ils sont très proches, très massifs. Et puis ces ondes gravitationnelles qui sont émises font perdre de l'énergie au système qui se resserre lentement au début, quand le système est très séparé. Et puis, au bout de certaines durées d'évolution, et bien le système devient si proche que hop, les deux objets tombent l'un sur l'autre et forment plus qu'un trou noir unique. Et le signal d'onde gravitationnelle s'arrête. Mais il faut voir comment l'évolution, enfin la succession d'événements, de rapprochements. Donc il y a une manière de temporalité qui est absolument une sorte de forme à reconnaître dans l'évolution du signal.
Alors que dans tous les autres exemples qu'on a donnés, en fait, on utilise un substitut pour le temps. Moi, c'est des distances essentiellement. Moi, je mesure des distances et je les convertis en temps. quand on fait du dosage, c'est en fait on mesure une quantité de quelque chose qui
on
reste
mesure,
et on le transfère
voilà,
en temps. Une quantité
qui reste ou une activité radioactive. Mais ce que je voulais ajouter aussi, pour mesurer ces durées, il faut qu'il y ait un top départ à un moment ou un autre. Et dans toutes ces techniques, il faut qu'il y ait une remise à zéro des compteurs. Enfin, nous, on parle toujours de cette remise à zéro. Pour la datation par carbone 14, par exemple, ça va être la mort de l'organisme vivant. À partir du moment où il est mort, il n'intègre plus de carbone 14 et donc ce carbone 14 se désintègre avec la période radioactive. Pour la datation par le potassium, le principe, c'est de mesurer à partir du moment où il n'y a plus d'argon dans le système. Et donc la remise à zéro du système, c'est quand l'argon a été vaporisé, et donc il faut une éruption volcanique. Et ce qu'on va dater, lorsqu'il y a des fossiles qui sont enfouis entre deux couches volcaniques, ce qu'on va dater, donc, c'est l'éruption avant et après. Et il faut que pour que ça puisse être daté, une roche, pour qu'elle puisse être datée, il faut qu'il y ait eu une remise à zéro du compteur. Donc une éruption dans le cas du potassium 40, par exemple, ou dans le cas des autres isotopes comme l'uranium, il faut que lorsque la coquille, lorsque le fossile s'est fabriqué, il n'ait pas incorporé tel ou tel élément que normalement, par l'équilibre, il faut qu'il y ait un déséquilibre entre les deux radioisotopes. Donc vraiment, il faut qu'il y ait un événement, forcément un top zéro, pour qu'on puisse mesurer une durée.
Et c'est vrai, pour rejoindre votre remarque, on essaie, nous, paléontologues, de mesurer le temps de la vie sur Terre, mais avec cette notion de temps qui n'est pas évidente, puisque notre unité, le million d'années, nous dépasse, puisque nous ne vivons pas au moins la durée de l'unité de temps qu'on utilise, donc c'est difficile à appréhender. Et on a aussi une notion quelque part paradoxal aussi du temps, parce que avec la, alors je vais sortir un nom barbare, la paléohistologie osseuse, c'est-à-dire l'étude des tissus osseux fossiles, c'est-à-dire que quand on a un fossile, on ne se contente pas maintenant de décrire uniquement la forme du fossile et de donner un nom de genre, un nom d'espèce, et puis de mettre tout ça dans un muséum. C'est un des buts, mais pas que. On pénètre grâce à des sortes en fait de rayons X, on pénètre en fait la structure osseuse et on essaie d'analyser les dépôts concentriques osseux, un petit peu comme la paléodendrochronologie. Et donc on sait, grâce à une analyse très précise en fait de ces dépôts osseux, presque où et quand allait en week-end le mosasaure ou le dinosaure de l'époque, mais on sait presque en fait sous quel climat ils vivaient, puisqu'on a des alternances, en fait, on a ce qu'on appelle des lignes d'arrêt de croissance, des dépôts osseux, qui sont soit annuels, soit biannuels, en fonction du mode de vie de l'animal. On corrèle tout ça avec l'anatomie en question de l'animal, et donc on sait grosso modo, on connaît bien son mode de vie et ses rythmes en fait de vie, mais on reste toujours un petit peu sur sa fin parce qu'on ne sait pas si c'était il y a 120 millions d'années ou 121 millions d'années. Bon, moi, personnellement, ça ne m'empêche pas de dormir, mais ça peut poser des problèmes après quand on compare les espèces qui sont a priori contemporaines.
Il y a un peu comme en astro, finalement. Il y a deux échelles de temps très différentes, finalement. Tu peux dire des choses à l'échelle de temps courte, mettons l'année, et en même temps, tu es emmerdé pour dire à mieux qu'un million d'années près l'âge du fossile. Donc il y a deux grandes échelles qui sont ensemble, mais dont on ne sait pas jouer avec. Quoi. On a l'impression d'être précis dans un coin et trop imprécis dans l'autre.
Et c'est comme le système de datation qu'utilisaient les pharaons. C'est-à-dire qu'on savait, c'était daté en fonction de l'accession au trône. Et on disait la 18e année de Ramsès II, par exemple. Mais comme on ne sait pas quelle année il est arrivé au trône, on est très précis, mais sur une échelle floue. Et c'est un peu ça.
Alors ça, je rebondis sur cette affaire-là, qui est vraiment intéressante. Voilà, c'est parti. Eric, maintenant, tu es bon. Tu as lancé, c'est bon. Donc, il y a cette affaire-là, effectivement, très intéressante. Les datations anciennes, nous, on a le calendrier dion grégorien, qui est une sorte d'échelle de temps linéaire, où on additionne, on empile les durées, l'année, par exemple, et puis voilà, on fait année 1, année 2, on a décidé que c'était la naissance du Christ, l'année 1, et puis c'est marre, et voilà, c'est bon. Évidemment, dans les époques anciennes, c'est plutôt l'accession au trône du roi Sargon, le troisième jour de la huitième année de la troisième semaine de la huitième année de l'accession au trône du roi Sargon, il s'est passé ça. Alors non, historien, vous êtes embêté. C'est une échelle de temps précise, mais on ne sait pas dater quand est-ce que commence le top chrono, le top zéro dont tu parlais tout à l'heure. Alors là où c'est intéressant, où intervient, alors non pas l'astrophysique, mais l'astronomie, c'est qu'on peut essayer de dater des événements anciens, historiques anciens, quand ils ont eu le bon goût de nous donner un événement astronomique. Par exemple, on va vous dire, le troisième jour du huitième mois de la septième année du roi Sargon, on a vu une éclipse totale de soleil à Ninive. Yes, parce que nous, on sait où est Ninive, parce qu'il y a encore un tas de pierres. On sait calculer toutes les éclipses de soleil depuis maintenant jusque dans un passé lointain, pas trop lointain. La précision des modèles astronomiques qui décrivent le système solaire, c'est en gros moins 10 000 dans le passé, plus 10 000 dans le futur. Au-delà, les modèles sont plus assez précis. Les perturbations du système gravitationnel solaire sont suffisantes pour que les modèles perdent un peu de leur pertinence. On se calcule toutes ces éclipses. Le roi Sargon, on n'est pas complètement ignorant. On sait bien, c'est plutôt le 8e siècle ou le 15e siècle avant notre ère. Donc bon, on choisit. On calcule une rafale d'éclipses. On se dit, ah, regardez celle-là, ça pourrait être la bonne. Mais nous, on sait la dater en calendrier grégorien. Et on fait des recollements de calendrier par des événements astronomiques qui nous disent, ah ben regardez, cette éclipse-là, c'est probablement celle qui est décrite dans ce texte. Et ça nous dit que le 3e jour de la 8e, du 8e mois de la 5e année du roi Sargon, c'était le 1er septembre, moins 4702 avant notre ère. Et hop, on est content, on a le recollement, et après c'est fini. Une fois qu'on a une date, on peut en avoir deux, pour avoir éventuellement la bonne corrélation, et on arrive comme ça à recoller les calendriers, et c'est extrêmement pratique. Et il y a même un cas encore plus intéressant, il y a une éclipse de soleil qui s'est produite à Babylone, alors je ne sais plus exactement la date, mais que ce soit moins 320 avant notre ère, dont on ne savait pas que c'est moins 320, mais on a essayé de la recalculer, et on s'est rendu compte que l'éclipse la plus probable, la plus plausible, n'était pas visible à Babylone. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Soit les gars
Babylone
sont
trompés. Babylone, c'est ça ?
Voilà, Babylone n'était pas à Babylone. Alors ça, comme ça ne paraît pas une bonne hypothèse, on se dit, bon, Babylone est à Babylone, ils ont dû voir l'éclipse, ils ne sont pas trompés, ils ont dit le bon truc. Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, ce qui a été émis comme hypothèse, c'est que la Terre tourne sur elle-même. Bon, ça, ce n'est pas une hypothèse, c'est une réalité. Mais que le ralentissement de la Terre autour d'elle-même, c'est-à-dire que la période de révolution de la Terre autour d'elle-même n'est pas la même au fil des âges, 23h56 minutes et 4 secondes en ce moment, dans le passé, c'était quelque chose qui était plus court, et dans le futur qui sera plus long, ça c'est dû aux interactions de marée entre la Terre et la Lune, et ne datant pas l'éclipse de Babylone à Babylone, enfin ne la trouvant pas se produisant à Babylone, disons le jour dit, on s'est dit, ah ben peut-être ça va donner une indication séculaire. Maintenant, on sait mesurer le ralentissement de la rotation de la Terre. On sait le mesurer à l'échelle de l'année. Hein. Ça se fait très, très bien. C'est des mesures qui sont des fractions de millièmes de seconde. On sait faire ça très bien. Mais là, on avait une mesure séculaire sur des siècles. Et on a dit, ah, si le ralentissement de la rotation de la Terre, c'est tant, crac, l'éclipse de Babylone se produit à Babylone. Et donc, on en a déduit, en fait, le ralentissement de la rotation de la Terre. Donc là, c'est autre chose. C'est un événement physique et la Terre, sa rotation ralentit sur elle-même. On le sait, on le mesure actuellement. Mais depuis il y a 10 000 ans, on n'était pas là pour le mesurer. On a pu avoir une indication en remettant les éclipses au bon endroit et en ayant des recollements de calendrier par des événements astronomiques. Et donc là, ça devient très subtil. C'est mesurer le temps, mesurer des durées dans le passé par différents événements qui sont des événements radioactifs, des événements à quelle profondeur c'est, plus c'est, en gros. Plus c'est profond, plus c'est sous une couche profonde, plus c'est ancien. Et en même temps, des événements astronomiques qui sont suffisamment rares en un lieu donné, comme les éclipses totales de soleil, pour que quand on en voit une, c'est suffisamment frappant, une éclipse totale de soleil, pour que les gars ne soient pas trompés. On dit, ouais, on a vu une éclipse, et voilà, ils ne sont pas trompés, ils ont vu l'éclipse. Et donc, on peut recoller les calendriers et même mesurer le ralentissement de la rotation de la Terre grâce à ça. Donc, il y a des événements, c'est assez stupéfiant, tous les ressorts qu'on peut avoir, des quantités, des profondeurs, des longueurs, des autre chose, des décalages vers le rouge, quand ça s'appelle décalage vers le rouge techniquement quand c'est l'astrophysique, tous ces éléments qui après sont transformables en durée moyennant une modélisation. Les sédimentologues vont dire, ah ben, les sédiments c'est je sais pas 1 mm par siècle, je vois 10 mm ça fait 10 siècles, je caricature un peu mais c'est peut-être quelque chose comme ça qui commence déjà à donner une idée, les durées de vie des atomes, des particules ou les temps de propagation de la lumière, mais qui sont il faut avoir un modèle d'évolution de l'univers, d'expansion de l'univers pour transformer l'information lumineuse décalages vers le rouge qu'on observe de la lumière. Les raies spectrales ne sont pas aux endroits où on les attend, mais dans des longueurs d'onde plus qui correspondent plus à des longueurs d'onde vers le rouge, pour transformer ça en information de durée.
Les échelles relatives avec les valeurs absolues.
Il faut recaler en permanence tout ça, voir qu'il y a une cohérence. En fait, on reconstruit une cohérence. Voilà, une reconstruction de cohérence entre la physique, ce qu'on observe et tout ça. Il faut que ça se passe bien.
C'est complètement anecdotique, mais quand on fait ça, il ne faut pas oublier qu'il n'y avait pas d'année zéro dans notre calendrier. Il n'y a pas d'année zéro. On passe directement de moins 1 à plus 1. C'est un détail.
Si on dit moins 1, alors on risque de faire le désagréable. Si on dit moins 1, c'est qu'on met une année 0, ce qui est possible. Mais quand on dit moins 1, c'est 2 avant Jésus-Christ. Voilà. Parce qu'il y a eu 0 qui est 1 avant Jésus-Christ. C'est assez compliqué. C'est les piquets des intervalles. Je rappelle qu'on est la 18e édition des Utopiales, donc les Utopiales ont 17 ans. D'accord ? On fêtera les 20 ans en, je vous laisse calculer, et la 21e édition en 2020. Ce qui est emmerdant, parce que 2020, ça tombe rond. Alors qu'est-ce qu'on va faire ? On n'a pas encore décidé. Vos opinions sont... Est-ce qu'il faut fêter le 20e anniversaire en 2019 ? Mais ça sera 2019, ou alors le 21e édition, ça sera le 20e anniversaire, mais ça sera en 2020, mais ça tombera rond.
Bon. Je crois que tout le monde est d'accord pour le fêter deux fois.
D'accord, on
le
fêtera deux fois, voilà, exactement. Et je pense que c'est la solution vers laquelle on va converger. On fêtera la 20e édition et le 20e anniversaire, comme ça tout le monde sera content.
Et c'est vrai que l'année zéro, ou plutôt le temps zéro, est très relatif aussi. Il dépend quelque part, même entre paléontologues, il dépend un peu de la spécialité des paléontologues. Et moi, je me sers des dinosaures. Alors, les dinosaures, c'est une époque très vaste, mais pour, quand je fais de la diffusion des connaissances, quand on me demande sur quel groupe je travaille ou sur quelle période de temps, je dis je travaille sur ce qui se passe avant les dinosaures. Ah, avant les dinosaures, il y avait des trucs avant les dinosaures. Oui, oui, il y avait plein de trucs avant les dinosaures. Et c'est vrai que l'avant et l'après aident quand même à se caler un peu dans le temps, même si le delta, là, chez les dinosaures, surtout si vous considérez les oiseaux, ce qui est le cas quand on est paléontologue, les oiseaux sont des dinosaures en fait à plumes. Finalement, le delta est encore plus grand. Vous êtes 240 millions d'années de delta, c'est quand même horrible. Mais voilà, c'est dans les esprits, l'avant-dinosaure, bon ben, c'est la Terre, le temps profond, comme on le dit souvent en géologie, c'est-à-dire le paléozoïque, en gros, la première ère du phanérozoïque qui correspond à cette période où la vie devient visible. Et donc il y a des collègues qui travaillent sur l'après-dinosaure. On sait tous qu'il y a un après-dinosaure puisqu'on est dans le temps après les dinosaures, mais voilà, c'est, en fait ce sont des repères plus que des temps zéro.
Bah pour rebondir sur le temps zéro, alors pour nous, disons cosmologues, nous ce serait plutôt 13,8 milliards d'années, le début de l'univers, le moment du Big Bang. Et moi, mon sujet de recherche, c'est de recréer l'état dans lequel était le Big Bang pendant les deux premières microsecondes, après ces 13,8 milliards d'années. Et quand je le recrée, cet état, il dure 10-24 secondes. Donc on jongle avec les échelles de temps, c'est vertigineux.
Je suis tenté d'en rester sur ce vertige et de donner la parole à la salle. J'imagine qu'il y a beaucoup de questions. Non, j'ai tort d'imaginer. J'ai une question très, très cynique. Tu nous parlais de pré-dinosaures et de post-dinosaures. Est-ce qu'il y a des budgets pour le pré-dinosaure ? J'imagine qu'il est relativement facile de trouver de l'argent pour travailler sur les dinosaures et sur l'humain.
Sur l'humain, beaucoup. C'est la paléoanthropologie. Alors, c'est ce que je dis aux étudiants quand ils veulent travailler sur l'évolution et l'origine de l'homme. Je leur dis, attention, la paléoanthropologie, il y a souvent plus de spécialistes que de spécimens. Donc, il y a des biais qui sont encore plus que des biais cognitifs. Il y a des biais humains, tout simplement. Alors, c'est vrai que peut-être que plus on descend dans le temps, moins il y a d'aura médiatique et plus on travaille sereinement. Mais blague à part, les budgets, oui, c'est une réelle question puisqu'on passe de plus en plus de temps mesuré dans nos comptes rendus d'activité, à chercher des crédits avant de chercher des fossiles. Donc, effectivement, c'est une certaine mesure du temps.
C'est malheureusement vrai dans toutes les disciplines. Est-ce qu'il y a un micro qui peut circuler ?
Oui, bonjour. Du coup, moi, je voulais poser une question principalement pour M. Lehoucq, je pense. Vous avez dit qu'on datait des événements historiques à partir d'événements astrophysiques. Est-ce que c'est déjà arrivé qu'il y ait l'inverse ? qu'on date des événements d'astrophysique grâce à des traces historiques.
Absolument, c'est arrivé. L'inverse est exactement arrivé. C'est ça qui est génial. C'est qu'on a, par exemple, eu... quand on observe des restes de supernova, c'est-à-dire on sait identifier dans le ciel un certain nombre d'objets qui sont appelés longtemps des nébuleuses et qui maintenant sont catégorisés dans tout un tas de catégories très différentes. Parmi ces nébuleuses, il y a des objets qu'on appelle des restes de supernova qu'on sait reconnaître comme le reste de l'explosion d'une étoile. Alors une fois que vous voyez le reste, vous avez envie de savoir le top chrono, c'est quand est-ce que l'étoile a explosé. Et faute d'avoir observé l'explosion qui a pu se produire des centaines d'années avant, l'observation du reste maintenant, ben ça vous donne peu d'idées sur la dynamique. Vous voyez la dynamique actuelle du reste, mais vous aimeriez avoir le moment de l'explosion pour comprendre la dynamique depuis l'explosion jusqu'à maintenant. Il y a un certain nombre de situations, dans des supernovas par exemple, où des astronomes, et notamment des astronomes chinois, ont observé ce qu'ils ont appelé une étoile nouvelle. Dans le ciel, une supernova, ça se manifeste à nos yeux comme un endroit où il n'y a pas d'étoile visible à nos yeux. Elle était si faible, toute petite étoile, si je veux dire invisible à nos yeux, trop faible. Et puis l'étoile explose, et là d'un coup, il y a un truc qui est visible en plein jour. Pas aussi brillant que le soleil, mais il y a un point brillant dans le ciel qui peut être visible en plein jour, et en pleine nuit, je vous dis pas, ça rayonne, ça se voit. Donc ces astronomes chinois ont vu en 1054, alors comment on sait que c'est 1054 ? Eh bien, eux, ils ne disaient pas 1054. Mais on a pu recoller le calendrier chinois avec notre calendrier grégorien, et le tel jour de tel mois de telle année, en l'occurrence 1054 pour l'année, on a pu dater l'explosion d'un reste de supernova qui maintenant s'appelle la nébuleuse du crabe, Messier 1, qui est le premier objet du catalogue de Messier, et la datation de ce reste est extrêmement importante. On sait que ce reste a en gros 900 ans, un peu plus de 900 ans, et on a pu comme ça comprendre un peu mieux la dynamique d'expansion sur 900 ans. Il y a des situations où on voit un reste de supernova, personne ne l'a vu et on ne sait pas quoi en faire. Et il se trouve que l'astronomie chinoise a une tradition pratiquement trimillénaire d'observation du ciel régulière, c'est-à-dire tous les jours où ils peuvent voir le ciel, et avec des événements astronomiques qui ont permis d'abord de très bien recoller tous les calendriers chinois qui se sont succédés, mais aussi, dans un certain nombre de cas, de dater un événement en grégorien, dater en calendrier chinois et puis le recoller en calendrier grégorien pour avoir une idée de l'ancienneté de l'événement sur des événements qui sont des one-shot. Quand c'est une éclipse de soleil, c'est pas très grave parce que l'éclipse de soleil, maintenant, on a les moyens de recalculer beaucoup d'éclipses du passé et beaucoup d'éclipses dans le futur. Et c'est ça qui est intéressant. On dit, venez dans 2 ans, 6 mois, 3 heures, à tel endroit, il y a une éclipse totale de soleil. Eh bien, les événements qui sont uniques, qui se produisent une fois, par exemple, une explosion d'étoiles, eh bien, ça, c'est extrêmement utile, c'est arrivé. Et il y a 5 ou 6 supernovas dites historiques dont on a la datation grâce à l'observation d'astronomes du passé qui l'ont donné dans leur calendrier. Ces calendriers ont pu être recollés à notre calendrier par d'autres événements astronomiques, des éclipses, et ont permis de dater un événement astronomique dont on n'avait pas la datation sinon. Donc cette interprétation entre astronomie et astrophysique, où là c'est un événement astrophysique, mais astronomie, astrophysique et histoire est totale. Donc ça c'est vraiment un point très important. Il y a beaucoup de choses, beaucoup d'éléments que l'on peut dater ou redater dans un sens ou dans un autre grâce à l'astronomie.
Quelle est la durée minimale qu'on est capable de mesurer avec les meilleures horloges actuellement ?
Si c'est des horloges atomiques, la précision relative, c'est 10 puissance moins 16. Ça veut dire une seconde tous les 10 milliards d'années ou 3 milliards d'années, à peu près. Disons une seconde tous les 3 milliards d'années. Voilà la précision, la meilleure précision des horloges, si vous parlez d'horloges. Maintenant, les plus petites durées que l'on sait mesurer, alors là, je laisse la parole à Raphaël.
Ouais, mais tu as répondu à la question. C'est-à-dire que si on parle vraiment de mesure de temps, on parle d'horloge et c'est ça la réponse pour moi. Après, on peut inférer des durées plus petites. Je parlais de 10 moins 24 secondes dans mon cas. Mais en fait, ce n'est pas du tout une durée que je mesure. C'est le temps que met la vitesse de la lumière à traverser un atome, en gros. Un noyau. Mais ce n'est pas une mesure directe de temps. Mais bon, pour les horloges, c'est ça, quoi.
Les atomistes sont capables d'observer des phénomènes à l'atoseconde, c'est-à-dire 10 moins 18 secondes. Ouais. Le milliardième de milliardième en dessous, il n'y a vraiment pas de technique.
On sait faire des lasers. On sait faire des lasers, bien sûr. Très facilement, évidemment. Il y a des lasers dont les impulsions durent quelques atos, une dizaine d'atos secondes, 10 puissance. Donc, c'est des trucs. Là, il y a littéralement une tranche de lumière. Alors, la lumière fait 30 cm par milliardième de seconde. Donc, un milliardième de seconde. L'atoseconde, ça fait 30 cm divisé par un milliard. Voilà l'épaisseur de la tranche de lumière qui se balade. C'est stupéfiant.
Et ça, on peut donc l'utiliser pour mesurer du temps. C'est ce qu'on appelle une horloge, quoi.
J'ai entendu récemment que
la mesure de la température de l'océan, du fond des océans, a été remise en cause parce que la méthode de mesure était... c'était la mesure d'un taux d'isotope, je crois, dans des fossiles. Et ils pensaient qu'il était stable après la mort de l'être. Et en réalité, il y a une équipe de chercheurs français qui a montré que pas du tout. Et donc, ça remet en cause beaucoup de choses. Alors, je voulais savoir si, dans la mesure du temps, il y a ce genre de... on va dire de problèmes, d'erreurs qui remettraient en cause, qui auraient remis en cause les échelles en fait des différents événements que vous étudiez.
Je ne connais pas cette étude, mais il faudrait voir en fait quel isotope finalement a été utilisé dans le fossile. Je doute un petit peu parce que, encore une fois, il n'y a pas d'isotope utilisable, en tout cas en termes de géochronologie, dans les restes d'un organisme en fait autrefois vivant. Après, il peut y avoir des erreurs, bien sûr. Il peut y avoir l'utilisation de zircon, ces fameux petits minéraux naturellement radioactifs qui se sont remis à zéro parce qu'il y a un autre événement volcanique qui est venu dessus et puis ça a disturbé, enfin ça a déréglé cette espèce d'horloge géologique naturelle. Donc il y a des recalculs, il y a une sélection aussi de zircon maintenant avec un appareillage très, très, de plus en plus précis en tout cas, qui nous fait avoir un degré de confiance dans les résultats assez probable, assez intéressant, mais au niveau isotopique.
Alors dans les océans, je ne sais pas, moi non plus je ne vois pas de quelle étude vous parlez, mais dans les océans, on se sert du carbone 14 qui a été éjecté pendant les essais nucléaires en 1950, qui ont été éjectés dans l'atmosphère et qui ensuite, par les cycles du carbone biologique ou entre l'atmosphère et l'océan, se sont mélangés avec l'océan. Et c'est grâce à cet échange entre l'atmosphère et les océans et la circulation de ce carbone 14 dans les océans qu'on connaît maintenant la circulation océanique et les endroits où l'eau plonge, les eaux de surface plongent dans les eaux profondes, parce qu'on va mesurer des âges qui se sont écoulés depuis le tir de 1950. Mais je ne sais pas si c'est cette étude à laquelle vous faites allusion.
Oui, peut-être pour rebondir là-dessus, ça m'étonne un peu ce que vous dites aussi, mais un des trucs qui est génial dans tout ça, c'est que les noyaux ont des périodes de vie qui sont très 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 différentes. Ça va de infinidécimal. Là, je me demande même s'il n'y a pas des noyaux qui vivent plus que l'univers. Je ne sais pas si tu as ça en tête. Ouais, il y en a qui arrivent à peu près à la durée de vie de l'univers. Donc c'est colossal. Et on peut les utiliser pour plein de choses. Et je vais donner un autre exemple qui vient de m'inspirer par ça. Là. Nous, on a un labo dans l'institut auquel j'appartiens qui mesure le vin, l'âge du vin, grâce au césium qui est à l'intérieur. Et donc pour éviter les fraudes, en fait, si quelqu'un essaie de vous vendre une bouteille qui vous dit que c'est du 1943, ben non, en fait, non, c'est pas. Donc un petit prélèvement, un dosage du césium pour faire ça. Et alors là-dedans, ce qui est rigolo, c'est que c'est un peu comme pour les essais nucléaires, c'est que le Tchernobyl a fait remonter le taux de césium dans les raisins, ce qui permet de remesurer plus précisément tous les vins qui sont.
Pour pas jeter la. Dénoncer mes petits collègues de Lyon qui aussi font de la mesure de carbone 14. Alors eux, ils se sont spécialisés dans la datation des cognacs. Ouais. Voilà.
Ouais. Je suis tenté de reformuler la question de façon un peu plus théorique peut-être. Vous avez un autre point commun de vos discours, c'était que vous avez tous, d'une manière ou d'une autre, fait appel à des théories, à des modèles, à des hypothèses sous-jacentes, plus ou moins spéculatives. La sensibilité au modèle, tout modèle étant quasiment une fiction, quelle est la sensibilité des mesures que vous avez évoquées à la théorie? Une théorie pas forcément fausse, mais elle peut être obsolète, on peut avoir des théories alternatives. Est-ce qu'on prend en compte systématiquement cette dimension quand on travaille?
Une petite réponse provocative et puis après je vous laisserai zéro, parce que... Aucune dépendance. Non, mais c'est juste une anecdote, mais la vitesse de la lumière, donc nous, quand on convertit une distance en temps, la vitesse de la lumière, on a arrêté sa valeur et c'est elle qui définit l'échelle de temps quand on a l'échelle de durée. Donc, de longueur. Donc, non, c'est celle qui fait la longueur. Quand on a une, donc on définit le temps grâce à la pulsation d'un atome, ça c'est extrêmement précis. Et on définit aujourd'hui le mètre étalon grâce à la vitesse de la lumière. Donc, si on utilise cette méthode-là, par définition, parce qu'on a décidé que c'était une valeur précise, on ne peut pas se tromper.
Alors après, en astrophysique, comme je le disais, ce qu'on mesure, c'est jamais une durée directement. On mesure pour une galaxie lointaine, par exemple, ou un quasar lointain, on mesure son décalage vers le rouge, c'est-à-dire la lumière qui nous en parvient. Les raies que l'on peut observer dans le spectre de la lumière ne tombent pas aux longueurs d'onde auxquelles on s'attendrait si c'était à côté de nous. Elles sont décalées vers les longueurs d'onde, vers les grandes longueurs d'onde, donc ce qu'on appelle décalées vers le rouge. Et ce décalage vers le rouge porte témoignage de la distance spatio-temporelle qui nous sépare de l'objet, à la fois la durée et la distance qu'a parcouru la lumière pour nous parvenir. Et si on veut démélanger, dire parler en distance et en durée, plutôt qu'en décalage vers le rouge, on ne peut pas faire l'économie d'un modèle d'expansion de l'univers. Sans modèle de l'univers, sans la façon dont évolue, sans dynamique de l'univers derrière, vous ne pouvez pas démélanger les deux informations. Donc là, d'une certaine façon, votre modèle, il est explicitement derrière pour vous dire la valeur que vous attendez. Si vous changez un peu le modèle, alors vous changez la valeur. Et donc, d'une certaine façon, la précision qu'on espère atteindre dans le modèle mathématique qui décrit l'expansion de l'univers, eh bien, on espère qu'elle soit aussi bonne que possible, de sorte que l'on puisse parler de distance-lumière de façon aussi cohérente que possible. Sachant qu'en même temps, les premières distances-lumière ne sont pas mesurées grâce à un modèle d'expansion, sont mesurées par des mesures de distance directe d'étoiles, par triangulation, et après on utilise des étalons secondaires, tertiaires, quaternaires, donc on a une seule échelle de durée, et après on passe à l'échelle de temps, les temps-lumière qu'il a fallu pour que ça nous parvienne. Donc il y a toute une structure qui doit être cohérente, et il suffit qu'un élément change un peu pour brrr, tout se remettre en place pour regagner la nouvelle cohérence qui dépend de le nouveau modèle, ses paramètres ont un peu changé, ou des mesures plus précises de distance. Là, on a eu le satellite Hipparcos, bientôt le satellite Gaïa qui mesure des distances en ce moment d'un milliard d'étoiles en ce moment dans notre galaxie. Hipparcos 100 000, avant Hipparcos 1000 étoiles. Donc, il doit vous dire que hop, tout ça va se remettre à bouger un petit peu, de sorte qu'on regagne la cohérence globale. Ça change un petit peu plus selon les objets qu'on avait plus ou moins bien ou pas bien mesurés.
Alors nous, on est toujours un petit peu, on navigue toujours à peu près au million d'années près. Hein, et notre cadre en radiochronologie ou en géochronologie, c'est l'échelle des temps géologiques ou l'échelle des temps stratigraphiques. Mais tous les ans, il y a une commission internationale qui s'appelle la Commission internationale stratigraphique qui se réunit pour contrôler en fait les limites entre les aires primaires, enfin paléozoïques, mésozoïques, etc. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'a plus le droit de dire que les dinosaures ont disparu il y a 65 millions d'années, puisque la limite en fait, entre le Crétacé et le Tertiaire n'est plus à moins 65, pardon, c'est 66 par réajustement méthodologique. Et donc, les dinosaures ont disparu il y a 66 millions d'années. Je mets les oiseaux à part, bien sûr.
Il faut dire la limite. Si on dit la limite Crétacé-Tertiaire, on a toujours bon.
Oui. Exactement.
Mais si on dit 65 millions d'années, on a faux.
On a faux à maintenant.
C'est la différence entre le relatif et l'absolu.
D'accord. Bah, très bien. Je vais dire limite Crétacé-Tertiaire, ça sera plus chic.
Alors, nous, pour la communauté Carbone 14, tous, au contraire, on vérifie et il y a une communauté internationale qui s'est mise d'accord pour la façon d'exprimer les âges et la façon de corriger les âges. Donc, je m'explique. Pour mesurer le temps par la datation par le carbone 14, il faut mesurer deux paramètres. Le taux de carbone 14 qu'il reste dans l'échantillon, ça, on le fait vraiment. Et il faut aussi connaître un autre paramètre qui est le taux de carbone 14 qu'il y avait quand l'organisme était vivant. Et ça, on ne l'a pas et on fait une hypothèse. Et cette hypothèse, elle a été vérifiée, elle est continuellement vérifiée par ce qu'on appelle une courbe de calibration où on va comparer les âges carbone 14 avec d'autres techniques. Et toute la communauté internationale carbone 14 se met d'accord sur cette courbe de calibration. Parce qu'il y a des sujets un peu sensibles autour de cette méthode de datation. Et parce que c'est relativement nouveau, c'est apparu dans les années 50. Et dès le départ, il y a eu vraiment une communauté qui s'est rassemblée pour parler le même langage. Donc tous les laboratoires de datation par le carbone 14 dans le monde entier ont exactement les mêmes protocoles et la même façon de corriger les âges et de contrôler et utilisent la même période, etc. Donc nous, on est vraiment très rigoureux parce que aussi on a un côté pratique. On ne travaille pas que pour des applications fondamentales où, ma foi, ce n'est pas très grave si on se trompe un peu. Nous, derrière, il y a des archéologues, des historiens qui ont besoin de résultats justes.
Et qui ne sont pas à un million d'années près.
Les mesures
Des mesures judiciaires. Oui, par exemple.
Carbone 14 pour faire de la datation. Utiliser oui, le carbone 14 pour faire de la datation de. Il y a un gars qui est mort il y a 100 ans avec un surin dans le dos, mais on aimerait savoir si c'est à 100 ans ou 101 ans.
Alors, oui, alors le problème, ça, on n'est pas à cette précision-là, mais par exemple, je pense à un autre exemple pour le trafic d'ivoire. Là, on utilise beaucoup le carbone 14 pour vérifier si c'est l'histoire de l'ivoire ancien, c'est-à-dire encore autorisé, ou de l'ivoire moderne. Il y a aussi. Bon, toutes les acquisitions dans les musées, phénomène très à la mode, les masques africains, par exemple, et, voilà, pour les faux. Vous avez une question ?
C'était pour revenir. Ça marche. Pour revenir avec la notion de précision, si j'ai bien compris, tout de même, qui est quelque chose d'important, on ne mesure pas le temps directement. Il faut toujours que ça soit par quelque chose d'intermédiaire. On mesure un décalage, donc une distance ou une concentration. Vous parliez justement en physique des particules que ben, on essaye de quand même d'évaluer des durées extrêmement courtes. Si c'est si on le fait par l'intermédiaire d'un signal qui parcourt un fil, on a l'impression que la précision de la durée est donc corrélée à la précision, ben, je sais pas, de la longueur du fil. Et on se dit à quoi il va falloir avec quelle précision on va mesurer la longueur du fil pour avoir suffisamment de précision. Pour les informations que je veux collecter avec les événements.
Oui, vous avez complètement raison. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des coïncidences beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a les signaux passent par deux fils et puis on vérifie qu'ils arrivent pile en même temps. Donc, c'est pareil, c'est d'avoir la notion d'un temps zéro et d'un temps. Donc ça c'est important. Et la longueur du fil joue un rôle, bien sûr. Et peut-être pour l'anecdote, et parce que tu voulais qu'on ait de l'argent pour nos recherches, une des choses que j'adore, moi, c'est que.
Toujours.
J'ai des thésards qui travaillent là-dedans, qui après avoir quitté la recherche sont allés travailler là-dedans. Cette histoire de temps de parcours des signaux dans les fils, c'est important aujourd'hui pour la finance. Parce que je ne sais pas si vous avez entendu parler de high frequency trading, il y a des gens qui font des micro-opérations boursières super rapides. Donc ils regardent les toutes petites tendances du marché, ils achètent, ils vendent à toute vitesse. Donc c'est des machines automatiques, c'est plus des hommes qui donnent les ordres. Et donc pour faire ça, il faut donc des ordinateurs, il faut les coder. Ce qui code, ça ressemble beaucoup à ce qu'on fait nous pour acquérir des données de physique des particules. Donc nos thésards sont bienvenus pour faire ces trucs-là. En général, ils ne renvoient pas l'argent, je ne comprends pas pourquoi.
Ils ne renvoient pas l'argent, les salopards.
Non. Et ce qui est rigolo, ce qui me fascine, c'est que les banquiers donc, ont intérêt aujourd'hui, pour faire des opérations comme ça, à trouver des locaux près des places boursières, en fait. Donc ils achètent des placards à balais, des choses comme ça, pour mettre des ordinateurs, pour être le plus près possible du marché. Pour qu'ils aient l'information avant, et c'est vraiment la propagation des signaux à la vitesse de la lumière qui compte pour eux. Alors ça me fascine.
Je voulais préciser, juste pour rajouter une chose, ça c'est déjà assez, enfin, le training à haute fréquence est un peu concernant par certains aspects, mais du coup l'effet de la physique des particules sur le training à haute fréquence, ils pourraient faire un virement automatique, ils prennent 1% et puis ils virent automatiquement sur le compte du CERN, on n'en parle plus. Pour les mesures, ou la recherche en général, mais le CERN, il est généreux avec nous. Juste pour une dernière chose, sur la mesure des durées, on mesure des durées exactement, en fait, en physique atomique, mais on ne mesure pas des durées, on mesure des fréquences, qui est l'inverse d'une durée, à une très, très grande précision. C'est pour ça que, d'ailleurs, on a défini le mètre comme étant la durée parcourue, la distance parcourue par la lumière en un zillionième de seconde, et la vitesse de la lumière est donc fixée par décret. Et la seconde est fixée avec une très grande précision, parce qu'on sait mesurer des fréquences avec une très grande précision, simplement en faisant des battements. Donc si on a deux signaux, je caricature un tout petit peu la technicité en réalité dans la physique atomique, mais deux signaux qui ont des fréquences différentes, si vous les additionnez, vous regardez ce qui sort, ils sortent rien s'ils ont la même fréquence. Et ce qui sort, c'est un signal qui a un battement avec une fréquence qui est la différence des fréquences. Il y a le signal demi-somme et le signal demi-fréquence. Et on peut, en regardant le battement, mesurer la différence entre un signal de référence et un signal donné. Et ça, on peut le faire avec une précision qui est 10 puissance moins 15, 10 puissance moins 16, même dans les ordres atomiques. Donc c'est ça qui rend très précis les mesures de durée, mais là, sur des atomes, sur des fréquences, plutôt de fréquences, sur des fréquences atomiques éventuellement, donc des précisions de 1 Hz sur des choses qui sont à 10 puissance 15 ou 10 puissance 16 Hz, donc des fréquences lumineuses. Donc voilà, on peut mesurer des durées très précisément, mais dans la plupart des techniques que nous avons évoquées, c'est pas une mesure de durée qui est faite en pratique. C'est à rebours, on utilise un intermédiaire secondaire pour arriver à la durée finale. Tu avais une
remarque ? C'était juste pour réagir à ce que venait de dire Raphaël. C'est une bonne idée. Il faudrait mettre nos doctorants le plus près possible des fossiles pour qu'ils publient plus vite.
Des mission en Tanzanie ou je sais pas où,
c'est ça.
Vous êtes au plus près des fossiles.
On dort sur place, comme ça on est sûr que l'information arrive.
L'information arrive permet à travers. Non, mais il faudrait faire ça. Je pense on est bête en fait. On devrait envoyer masse doctorants pour aller travailler dans le training à haute fréquence et on leur dit tu fais un petit virement et on permet comme ça dans l'industrie financière et on siphonne l'argent pour aller financer les grands organismes de recherche.
J'en ai vraiment deux qui font ça. Je vais en leur en parler.
Ouais, bien sûr, ils pourraient faire ça, quoi. Puis avec un peu de crypto et tout ça, je pense que ça se passe discrètement.
Bon, je crains malheureusement qu'on n'ait plus le temps pour d'autres questions. Je voudrais remercier nos invités. Je voudrais dire aussi que je les ai présentés tout à l'heure tous les quatre comme des scientifiques, mais ce sont aussi des auteurs. Donc Roland et Sébastien en particulier sont de grands vulgarisateurs devant l'éternel. Roland a également commis au moins un roman de science-fiction avec Claude Ekane, Mission Callahan, dont on attend la suite avec impatience. Raphaël, en plus d'être un physicien des particules, est un écrivain de science-fiction. Je pense que vous pouvez retrouver leurs œuvres à la librairie, d'autre part les retrouver en signature dans l'heure qui vient. Donc n'hésitez pas à aller discuter avec eux en direct. Merci à tous.